Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, oh Dieu. Pour cette occasion que tu nous donnes d'être rassemblés dans ta maison, afin de chercher ta face, afin, Seigneur, de te présenter nos besoins, mais aussi, Seigneur, afin d'écouter ce que tu as en plan pour nous. Merci, Seigneur, de cette liberté que nous avons de nous rassembler et de nous tenir devant toi en ta présence. Merci, Seigneur, pour tous les détails de cette soirée qui sont sous le contrôle seul et unique de ton esprit. On te demande, Seigneur, de nous conduire dans ce temps de louange, dans ce temps de méditation et dans le temps de prière qui viendra clôturer cette soirée. Merci Seigneur pour ces moments qu'on a pu passer tous et chacun individuellement dans ta présence, à te présenter notre cœur, à te présenter Seigneur ce qui pèse peut-être dans certains cas sur nos épaules, et à savoir Seigneur que tu prêtes l'oreille aux prières de tes enfants. Alors ce soir Seigneur, je te demande d'étendre ta main et de nous toucher. D'étendre ta main, Seigneur, et d'ouvrir les portes qui donnent accès, Seigneur, à ta sainte présence. Afin, Seigneur, que qui que ce soit qui rentre dans ce lieu soit saisi par ton esprit. Que toute personne qui nous écoute au loin puisse avoir cette même grâce de ressentir ta douce présence et de voir ton esprit, Seigneur, qui se manifeste en elle et autour d'elle. Alors ce soir, Seigneur, reçois la prière de tes enfants, reçois la louange de tes enfants, reçois notre adoration, Dieu, et en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance, que toute la majesté te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux, dans le glorieux nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout là où on est, pour ce temps de louange, et Marjolaine va nous conduire dans quelques chants ce soir. Amen. On peut s'asseoir. Alors, bienvenue à cette première soirée dans notre période de jeûne et de prière. Bien entendu, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est hier, avec l'enseignement dominical, et on poursuit donc tout au long de cette semaine, même samedi soir, on se rassemble ici à 19h, et tel qu'on l'a invité ou exhorté hier, on invite tous et chacun à pouvoir faire un effort d'être là à plus d'une reprise cette semaine, simplement pour profiter de ce temps de recherche de la face de Dieu ensemble, et puis l'occasion aussi d'entendre ce que Dieu a pour nous cette année. Comme vous savez, tout au long de cette semaine, on prépare l'assemblée de dimanche où on va officiellement lancer le programme de l'année, lancer donc la thématique de l'année 2023. Et bien entendu, notre thématique va être basée dans le psaume qu'on étudie cette semaine, dans le psaume 133. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 133 que je vais lire pour vous. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Alors, comme on l'a expliqué hier, ce qu'on va apprendre ou étudier cette semaine est lié à ce qu'on appelle, dans un langage plus contemporain, la communion fraternelle. Et bien entendu, lorsqu'on est partie prenante d'une église, parfois, il y a des termes, il y a des choses qui sont tellement habituelles qu'on en perd le sens profond. Et hier, en se basant sur ce psaume qui est, à chaque fois qu'on parle de la communion fraternelle, qui est avancée, on s'est rendu compte que c'est peut-être plus profond qu'on ne peut le penser à prime abord. On a vu à travers deux termes importants, en fait même quatre termes importants, dont le premier qui est un simple mot en français, « voici ». Voici qui, en hébreu, se disait « hineni », qui voulait parler d'une obligation, d'un ordre. Et un des premiers constats qu'on doit faire lorsqu'on parle de la communion fraternelle, c'est que celle-ci n'est pas une option. C'est un devoir, c'est une obligation. On ne peut pas être partie prenante du corps de Christ et vivre à l'extérieur de la communion fraternelle. On ne peut pas se dire membre de la famille de Dieu et fuir la communion fraternelle. Et on s'est dit hier que, bien entendu, ce qui était normal pour une personne ou facile pour l'une n'était pas nécessairement la même normalité ou la même facilité pour un autre. Et assurément, il y a des gens qui sont enclins de façon tout à fait naturelle à la communion fraternelle. Ils en mangeraient 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 365 jours par année. Et il y en a d'autres qui doivent travailler un peu plus fort. Chose certaine, c'est qu'aucun d'entre nous n'exprime, ne vit la communion fraternelle à 100% et de façon excellente. En fait, nous serons excellents dans la communion fraternelle lorsque toute notre nature pécheresse nous aura abandonnés et que nous serons là-haut dans la présence de Dieu pour l'éternité. D'ici là, la communion fraternelle est un travail auquel on s'attelle et pour lequel on doit aussi progresser. On va voir différents versets durant cette semaine qui nous parlent de ce travail de la communion fraternelle. Aujourd'hui, je pensais que l'enseignement serait probablement le plus court de la semaine parce que je m'arrête sur un seul mot ce soir, le mot « frère ». Je veux dire, on sait tous ce qu'est un frère. Du moins, on pense tous savoir ce qu'est un frère. On pense tous savoir ce qu'est la relation fraternelle qu'on doit avoir les uns avec les autres. Mais je me suis dit, ou je me suis lancé le défi, et puis je le partage avec vous, je suis allé dans l'Ancien Testament, principalement, voir tout ce qui était recommandé, demandé, ordonné à des frères. On a des devoirs en tant que membre de la famille de Dieu. Et ce soir, on va voir une douzaine de points qui vont nous parler de certains devoirs dans lesquels on doit travailler. Cette année, peu importe où tu commences ta course au niveau de la communion fraternelle, l'objectif pour toi et pour moi, c'est qu'à chaque occasion qu'on aura, on puisse être encore mieux dans ce domaine-là. Vous savez que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle du psaume écrit par David, c'est en plein cœur ou en plein milieu de l'histoire d'Israël, de l'Ancien Testament, bien entendu. Et lorsque David va écrire ce psaume, inspiré, bien entendu, par l'Esprit de Dieu, il n'a entre ses mains que quelques manuels ou quelques écrits ou quelques enseignements transmis oralement d'une génération à l'autre, sur lesquels il peut baser sa compréhension de ce que veut dire un frère. Et l'ensemble du peuple d'Israël est dans la même situation. Ils ont essentiellement les livres qu'on appelle les livres de la loi, le Pentateuque. Et dans le Pentateuque, oui, il y a des livres qui sont des livres d'enseignement, le livre de Lévitique, le livre un peu de Nombre, le livre de Deutéronome qui est en fait la reprise de ce qui avait été enseigné précédemment dans le livre de Lévitique. Mais il y a aussi plein de passages qui sont tout simplement des faits historiques. Ce soir, on va essentiellement s'arrêter sur la loi de Moïse qui disait « voici ce qu'un frère doit faire et voici ce qu'un frère ne doit pas faire ». Et à travers les 12 passages qu'on va voir, et on va terminer avec quelques spécificités avec le Nouveau Testament, on va voir un devoir dans lequel je dois travailler un peu plus. Premier devoir se trouve dans Genèse au chapitre 4 et le verset 9. Et quand je parle de devoir ici, ce n'est pas un travail scolaire. Je parle d'une responsabilité, d'un ordre, d'un commandement auquel on doit obtempérer ou devant lequel on doit abdiquer. Genèse 4, le verset 9 nous dit « L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel ?» Il répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Suis-je le gardien de mon frère? J'ai l'impression que Dieu avait envie de le... Si Dieu parlait le langage d'aujourd'hui, Dieu aurait regardé Caïn puis il aurait dit « De ». Es-tu le gardien de ton frère? « De ». Évidemment, tu es le gardien de ton frère. Mais une chose qui est intéressante ici, c'est que Dieu n'a pas demandé à Adam et Ève où se trouvait Abel. Il a demandé à Caïn. Il n'a pas demandé au supérieur hiérarchique d'Abel où il se trouvait. Non, il a demandé à son égal. Il a demandé à son frère. Et ce qui est malheureux avec la question de la communion fraternelle, c'est qu'on regarde souvent ça, comment les autres prennent soin de moi. Mais je vous invite à regarder la communion fraternelle durant toute cette semaine sur comment moi, je peux l'exercer davantage et d'une meilleure façon. Le premier point ici, c'est que nous sommes responsables. Oui, nous sommes responsables de nos frères et de nos sœurs. Oui, j'ai une responsabilité sur l'état, sur la progression, sur la croissance de mon frère et de ma sœur. Premier mot important, responsabilité. Tu es responsable de ton frère. Tu as une responsabilité sur la vie spirituelle de ton frère. Comment tu vas manifester cette responsabilité? Je suis convaincu que nous tous, il y a des idées qui peuvent nous venir à l'esprit, même à l'instant même. Oui, tu as la responsabilité de voir comment ton frère va. Tu as la responsabilité de savoir où il en est rendu. Tu as la responsabilité de l'encourager. Tu as la responsabilité de savoir où il se trouve aujourd'hui avec Jésus. Tu as cette responsabilité. Ce n'est pas juste la responsabilité d'un collège pastoral. Ce n'est pas juste la responsabilité d'un papa ou d'une maman spirituelle. C'est la responsabilité de Caïn de savoir où se trouve Abel. Mais face à cette responsabilité, il y a un deuxième terme qui vient aussi. Et là, c'est dans Genèse au chapitre 9, le verset 5 et 6. Ce soir, on va laisser la parole de Dieu nous parler. Parfois, on est obligé de l'expliquer, aller à droite, aller à gauche, argumenter et tout ça. Ce soir, on prend des versets, puis on laisse simplement ces versets nous dire, voilà la leçon qu'on doit tirer. Genèse 9, le verset 5-6 nous disent, « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. » À l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Ici, on parle lorsque quelqu'un enlève la vie à quelqu'un d'autre. Et on lui dit, le sang de celui qui est mort tombe sur ta tête. Face à la responsabilité, il y a aussi ce qu'on appelle la redevabilité. C'est bien de savoir qu'on a une responsabilité, mais face à cette responsabilité que Dieu nous donne, on est aussi redevable par rapport à Dieu. Ce n'est pas une suggestion que Dieu nous donne de se montrer comme responsable par rapport à nos frères et nos sœurs. C'est une obligation sur laquelle nous serons aussi jugés. Chacun d'entre nous, dans les comptes qu'on aura à rendre à Dieu lorsque nous ferons face à notre Seigneur, nous devrons répondre de comment nous avons traité nos frères et nos sœurs. On a non seulement la responsabilité, cet appel, cette exhortation à prendre soin de nos frères et nos sœurs, mais qu'on ne se leurre pas, on sera obligé de rendre des comptes. Comment j'ai traité ma sœur? Comment j'ai traité mon frère? Comment j'ai pris soin de mon frère? Comment j'ai pris soin de ma sœur? Est-ce que je lui ai fait du bien? Est-ce que je lui ai fait du mal? Est-ce que j'ai été préoccupé par ce frère, par cette sœur, et ça m'a amené à me mettre en action? Ou je me suis simplement dit, ben, ça tombera sur la responsabilité de quelqu'un d'autre. Lorsque je ne prête pas assistance à quelqu'un qui est en danger, de par la loi des hommes, je suis coupable. Si je vois quelqu'un qui est en danger et je n'interviens pas, la loi peut me poursuivre parce que je n'ai pas prêté assistance à cette personne qui était en danger. Si les hommes, dans leur faible sagesse, ont compris ce principe, à combien plus forte raison avons-nous aussi des comptes à rendre à Dieu sur comment on traite nos frères et nos sœurs? Donc oui, nous serons redevables face au Seigneur pour ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait par rapport à mes frères et à mes sœurs. Troisième terme, on va le trouver dans Lévitique au chapitre 25, le verset 14. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun ne trompe son frère. Qu'aucun ne trompe son frère. Troisième terme, l'honnêteté. Il doit y avoir de l'honnêteté parmi nous. On doit être honnête les uns envers les autres. On ne doit pas se placer en position pour profiter de nos frères ou de nos sœurs, pour tromper malhonnêtement nos frères et nos sœurs. Dans le Nouveau Testament, on va nous dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Pas je te dis oui, mais en fait c'est non. Ou je te dis non, mais en fait c'est oui. Soyons, apprenons à être honnêtes dans nos relations avec nos frères et nos sœurs. Et l'honnêteté ne veut pas dire manquer de civisme. L'honnêteté ne veut pas dire manquer d'égard. Il y a des gens qui se cachent sous la prétention de la franchise pour couper la tête des gens qui sont autour d'eux. Mais la prochaine fois que je le vois, je vais lui dire ces quatre vérités. Non, tu es juste en train de te défouler. Et ton seul objectif, c'est de lui faire mal. L'honnêteté n'est pas nécessairement violente. Il y a une façon de dire les choses. Lorsque le Seigneur te parle, lorsque le Seigneur me parle, parfois c'est dur, mais c'est jamais pour me blesser. Parfois, il va me corriger, mais c'est jamais pour me faire mal. Il me corrige, il me bouscule pour que j'aille mieux, pour que je fasse mieux, pour que je sois meilleur. Et lorsqu'on parle à nos frères et nos sœurs, ça doit être l'objectif qui mène nos cœurs. Ça doit être l'objectif dans mes propos, dans mes paroles. Et voilà pourquoi on doit faire attention à comment on parle les uns envers les autres. Parce que l'objectif, ce n'est pas que tu te défoules. L'objectif n'est pas que tu rendes tes comptes. L'objectif est que tu amènes celui ou celle qui est devant toi à être meilleur. Dans le corps de Christ, il y a ce devoir à l'honnêteté. Quatrième point, Lévitique 25, toujours, le verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Ça, c'est un principe qui existait dans la culture juive ou la société juive de l'époque. Si quelqu'un devenait pauvre, un membre de sa famille, le plus proche, avait un premier droit de regard sur cette vente. Il disait, avant que cette propriété ne parte à un inconnu, ne partent à un étranger, moi je rachète cette partie-là. Je rachète cette propriété. Et ce qu'il savait aussi, on va le voir un peu plus tard, c'est qu'en rachetant cette propriété, 7 ans plus tard, au moment du jubilé, au moment du sabbat, on rendait la propriété. C'était comme, je te rends un service, je prends soin de toi, je vole à ton secours. Il y a dans le corps de Christ, comme quatrième point, un devoir de secours. Il doit y avoir cette initiative innée en nous de nous secourir les uns les autres. Lévitique 25, toujours les versets 35 et 36. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger, qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Ici, le Seigneur est en train de dire à son peuple, lorsque tu vas donner le secours aux gens, lorsque tu vas racheter la propriété de ton frère, tu ne lui redonneras pas avec intérêt. Tu ne vas pas dire, ah, mais j'ai usé mes pantalons, j'ai usé mes sandales, je me suis forcé à travailler, j'ai eu des employés. C'est comme, non, tu lui rends au complet. Tu ne demandes pas un dédommagement, tu le rends au complet. Il dit même que tu ne tireras aucun intérêt. Ce n'est pas genre, tu prêtes à ton frère, puis tu dis, je te le prête avec un pourcentage d'intérêt. La banque ne veut pas te prêter, puis la banque est rendue, je ne sais pas à quoi. Il y a des banquiers, je ne veux pas m'avancer ici, là. Ils ont des intérêts. En fait, ils disent, mais comme toi, tu ne peux pas avoir l'intérêt avec la banque, mais moi, je te le prête juste un petit peu plus. Bibliquement parlant, tu prêtes à ton frère, tu prêtes sans intérêt. Tu veux respecter la loi de Dieu. Et ne me dis pas que c'est l'Ancien Testament, là. Ça n'a pas été aboli, là. Ça n'a pas été aboli. Ça existe encore. La relation entre nos frères et nos sœurs doit se faire sur les bases même de la parole de Dieu. Et cette parole dit, tu prêtes à ton frère, tu prêtes sans intérêt. En fait, notre cinquième point ici, c'est l'altruisme. Être porté vers l'autre. Arrêter de se centrer sur soi-même, mais avoir une vie qui est portée vers l'autre. Et ici, le Seigneur va dire, je veux tellement que ta vie soit portée vers les autres, que tu vas non seulement prendre soin de ton frère, mais tu vas prendre soin aussi de l'étranger. Ces dernières années, j'aurais tellement aimé que plusieurs chrétiens, un peu partout, relisent ce verset-là et comprennent comment on traite quelqu'un qui vient de loin. Comment on traite quelqu'un qui est nouvellement arrivé, quelles que soient les raisons de son arrivée. La parole était claire. Fallait traiter l'indigent, l'étranger et ton frère avec altruisme. Le sixième point, toujours dans Lévitique 25, on dirait que c'est le chapitre de la fraternité. Lévitique 25, et là je ne parlais pas des syndicats, Lévitique 25, 46 nous dit, vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Ici, ce verset parle de l'esclavage. Des gens qui, à un moment donné, ont été vendus et donc achetés parce qu'ils n'avaient plus les moyens de vivre par eux-mêmes. Et il y avait une loi en Israël qui faisait qu'à un moment donné, si je perdais mes avoirs, si je devenais pauvre, je pouvais me livrer comme esclave à mon créancier. Et le Seigneur disait, pour ton frère, quand ce frère-là devient ton esclave, parce que tu pouvais aussi avoir un esclave juif, quand ce frère-là devient ton esclave, je ne veux pas que tu le traites avec dureté. Ne domine pas avec dureté. Notre sixième point, une douce autorité. L'autorité existe dans le corps de Christ. La hiérarchie dans le corps de Christ existe. Il y a des gens qui disent on est tous égaux, mais on n'a pas tous la même position. On est tous égaux, on est tous pécheurs et on a tous besoin de Jésus. Mais une fois qu'on est dans l'armée de Jésus, une fois qu'on est dans le corps de Christ, chacun d'entre nous a des responsabilités. Et ces 10 responsabilités-là nous distinguent les uns des autres. Mais même lorsqu'on est en autorité sur quelqu'un, donc en autorité sur un frère, sur une sœur, le peuple d'Israël va être exhorté à dominer sans user de dureté. Savoir appliquer une douce autorité. Vous avez tous déjà eu, à un moment donné, un patron, un supérieur, un chef d'équipe, que ce soit en sport, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, qui était un tyran. Mais j'espère que vous avez tous un jour connu quelqu'un en autorité qui était doux, agréable. Et je suis convaincu que lorsque cette personne en autorité douce et agréable vous demandait quelque chose, vous n'hésitiez pas à le faire. Pourquoi? Parce que vous saviez que cette personne-là n'était pas pour vous faire mal. Dans le corps de Christ, on doit développer une douce autorité. Et dans douce autorité, je me rappelle moi-même certaines expériences. Quand je grandissais, il y avait une chose qu'il ne fallait pas me dire. Il ne fallait pas venir me voir en me disant « Florent, je suis ton grand frère ». Je ne parle pas de ma sœur, là. Je parle dans l'Église. Quelqu'un qui venait en disant « Hey, moi, je suis ton frère aîné dans la foi ». L'aînesse dans la foi, elle va se sentir et elle va se reconnaître. L'autorité dans la foi va se sentir et va se reconnaître tout naturellement. Elle ne s'impose pas. Une autorité qui est imposée sur nous, on est réfractaire à ça. On est de nature à s'opposer à ce que quelqu'un vienne nous donner des coups de cravache. Mais lorsque la personne vient, comme Jésus, laver les pieds de ses serviteurs, qu'est-ce que les serviteurs peuvent dire après? Jésus vient, lave les pieds de ses disciples. Jésus peut leur demander de faire un tas de choses après. Mais comment tu veux qu'on te refuse? Tu nous avais lavé les pieds. Quelques heures après, ce maître-là faisait encore plus grand. Il mourait pour ses mêmes serviteurs. Septième point, Deutéronome 1,16. Je donnerai dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère et avec l'étranger. Justice, équité. Il faut qu'il y ait de la justice dans nos rapports. Il faut qu'on soit juste, pas de favoritisme. La Bible va nous dire dans le Nouveau Testament qu'il n'y ait pas parmi nous un esprit de partisan. Ça, moi j'aime ce groupe-là. Mais parce que j'aime ce groupe-là, j'en prends un peu plus soin. Ou parce que j'ai plus d'affinité avec tel autre groupe, alors eux, ils passent avant les autres. Dans le corps de Christ, nous avons un devoir de justice. Point numéro 8, Deutéronome 15, 11 et 12. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. C'est le verset 11 simplement. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre, à l'indigent dans ton pays. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. Terme numéro 8, générosité. Dans le corps de Christ, on ne devrait pas vivre selon le principe de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. On devrait faire preuve de générosité. Point numéro 9, le verset suivant, le verset 12. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. » Ça, c'est ce frère qui s'est mis esclave parce qu'il n'avait plus d'argent, parce qu'il était rendu dans l'indigence. Et il y avait une loi pour celui qui l'avait secouru, comme quoi à la septième année, la dette était effacée. Repars, recommence. Ton champ, je te le rends. Le neuvième point que certains ne connaîtront pas au niveau du vocabulaire, recouvrabilité. Le terme recouvrabilité, qui veut dire être capable de recouvrir ce qui était nôtre auparavant. Dans le langage plus ecclésial, on va dire restauration. On doit vivre dans l'Église la possibilité d'être restauré. Le jugement se passe. L'erreur est commise et mise à la lumière, mais la personne qui a chuté, la personne qui a tombé, doit pouvoir trouver dans le corps de Christ la possibilité d'être restaurée. Point numéro 10, Deutéronome 22, le verset 1 à 4. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu retrouverais. Tu ne devras point t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. Si tu vois ton frère qui est dans les problèmes, tu vas le protéger. Tu vas faire ce qui est nécessaire pour l'aider. Tu l'aideras à le relever. Nous devons avoir parmi nous ce sentiment de protection. Savoir que l'Église est un endroit où je peux être protégé. Il y a des gens qui ne veulent pas confesser leur péché parce qu'ils se disent « on va me couper la tête ». Mais c'est une mauvaise idée, un mauvais concept de l'Église. Le concept, c'est « mettons nos vies en règle pour être relevés et trouvons au sein de l'Église, au sein du corps de Christ, cette protection qui est nécessaire ». Point numéro 11. Le chapitre suivant, Deutéronome 23, les versets 19 et 20. Tu n'exigeras pas de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt. On s'entend, quand on va emprunter quelque chose, c'est qu'on est en manque. Quand on va emprunter de l'argent, c'est qu'il nous manque d'argent. Quand on va emprunter un outil, c'est qu'il nous manque cet outil. Donc on parle ici de quelqu'un qui est en nécessité d'une chose, et la Bible va dire, ne tire pas profit de la nécessité de ton frère. Foncièrement, ne tire pas profit du malheur de ton frère. On ne tire pas profit du malheur d'autrui, on exerce de la bonté. Tu as besoin, je te donne. Tu as besoin, je te prête. Tu as besoin, je viens à ton secours. Onzième responsabilité, la bonté. Dans le Nouveau Testament, et je fais vite parce qu'on doit bientôt prier. Dans le Nouveau Testament, le terme qui est utilisé en hébreu dans l'Ancien Testament, c'est le terme « ach », qui veut dire donc « frère ». Dans le Nouveau Testament, le terme qu'on utilise en grec pour « frère », c'est « adelphos ». Et « adelphos » apparaît dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour une totalité d'au-dessus de 1000 fois. Donc c'est un concept qui est important dans la parole de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, au-delà de « celui-ci était le frère de tel autre », genre les fils de Zébédée, genre Jacques et Jean qui étaient frères, André et Pierre qui étaient frères. Au-delà de ça, l'utilisation de frères dans le Nouveau Testament, c'est essentiellement une salutation entre les membres de l'Église et c'est aussi une façon de s'adresser les uns aux autres. Et vous voyez l'exemple parfait avec Paul. Paul, dans ses lettres aux Églises, va utiliser constamment le terme « frère ».« Frère, je vous exhorte ou je vous écris pour une deuxième fois. » « Frère, je ne cesse de vous rappeler. » « Frère, voici ce qui se passe chez vous. » « Frère, voici ce que vous devez condamner. » « Frère, voici ce que vous devez chercher. » Paul, chacune de ses exhortations se fait à titre de frère. Pour nous, la grande leçon, c'est que dans nos échanges, il doit y avoir respect. Paul savait très bien qui il était par rapport à ses frères. Paul savait très bien que même par rapport à plusieurs d'entre eux, il était leur père spirituel. Mais lorsque Paul s'adressait à eux, lorsque Paul s'adressait aux églises, lorsqu'il leur faisait des remontrances, lorsqu'il leur faisait des exhortations, lorsqu'il leur disait quoi faire, il s'adressait à eux avec tout le respect qui se doit. Dans l'Église, on doit trouver ce climat de respect. Nous avons un devoir de respect les uns envers les autres. Et le dernier point vient de Jésus lui-même. Et vous allez dire, mais pasteur, il n'y a pas le terme « frère » là-dedans, mais je vais vous expliquer que le terme est quand même là. Allons dans Jean au chapitre 13. Jean chapitre 13, et habituellement on lit les versets 34 et 35. Mais on va commencer au verset 33. Jean nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et non, ce n'est pas le terme « disciple » sur lequel je veux attirer votre attention. C'est les trois premiers mots du verset 33. « Mes petits-enfants ». Et ici, il n'y a pas de trait d'union entre petit et enfant. Ce n'est pas Jésus qui se présente en disant hey, « je suis votre grand-père ». C'est Jésus qui regarde l'ensemble de ses disciples et il leur dit « vous êtes mes petits-enfants ». Vous êtes mes enfants petits. Et si vous êtes tous mes enfants petits, ça veut donc dire que vous êtes tous frères. Et à ses frères, voici un commandement que je vous donne, de vous aimer les uns les autres. Car c'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres, vous, mes petits-enfants, que tous sauront que vous êtes vraiment mes disciples. Il y a un ingrédient qui, s'il se trouve parmi nous et s'il se développe parmi nous, règle toutes les autres nécessités ou tous les autres devoirs. L'amour. Et assurément, on peut s'aimer davantage, on peut s'aimer mieux, on peut s'aimer encore plus longtemps, et on peut tous travailler sur notre amour fraternel. Quels sont les devoirs qu'on a vus? Et le frère Mérès peut s'avancer. C'est lui qui va nous conduire dans ces quelques minutes de prière pour conclure. On a un devoir de responsabilité les uns envers les autres. On a un devoir de redevabilité. On a des comptes à rendre à Dieu sur notre communion fraternelle. On a un devoir d'honnêteté dans nos relations avec nos frères. On a un devoir de secours envers nos frères. On a un devoir d'altruisme entre nous. On a un devoir d'exercer l'autorité avec douceur. On a un devoir de justice les uns envers les autres. On a un devoir de générosité les uns envers les autres. On a un devoir de restauration ou de recouvrabilité. On a un devoir de protection. On a le devoir de ne pas profiter les uns des autres, mais d'exercer de la bonté. On a un devoir de se respecter les uns les autres. Et assurément, on a le devoir de s'aimer les uns les autres.
Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons prier. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que on peut le prendre dans tous les sens et on a toujours le même message. Alors ce soir, je bénis le nom du Seigneur pour cet enseignement. Merci, pasteur Florent. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que j'étais dans la salle et puis je me disais une chose. Quel agréable beau buffet. J'ai pris chaque point comme un vrai délice. Et contrairement au buffet qu'on peut participer où on peut trouver des choses qu'on n'aime pas et puis qu'on laisse de côté ou qu'on a un risque de faire une indigestion, mais ce qui est bon avec la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de risque d'indigestion. Et je vous invite ce soir vraiment à prendre tous ces points, à cheminer avec. Et surtout à ne pas oublier que c'est un rendez-vous que Dieu nous donne. Lorsqu'on prend les cantiques de degré, comme le pasteur l'avait si bien mentionné, le peuple est en chemin pour aller vers une convocation. Et ce soir, ou plutôt cette semaine, je pense que c'est la convocation que Dieu nous donne. Et on a commencé avec... cet enseignement si riche, je n'ai pas la prétention qu'on va tout cerner ce soir. Mais je pense que la base, elle est bien donnée pour qu'on soit conscient de ce que Dieu veut faire avec nous. Et je vais tout simplement vous inviter à vous abandonner entre les mains de Dieu. À dire tout simplement à ce que le Seigneur prenne le plein contrôle et que la vraie fraternité soit palpable dans notre congrégation. Qu'on voit ce genre de choses. Je me rappelle mercredi dernier, lorsque j'ai partagé un petit enseignement avec vous, et c'est un clin d'œil que Dieu me donne. On a parlé de l'enfant prodigue. Et le message du Père dans cette parabole-là, c'est ça qu'il voulait que le fils aîné voit pour le fils cadet. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça mercredi passé. Ben, c'est encore le même message. Alors, élevons tous ensemble la voix et prions. Amen. Père Céleste, nous te bénissons et nous te disons merci. Combien riche est ta parole. Combien, Seigneur, tu veux nous faire du bien. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour la préparation que tu as faite pour nous. Merci d'avoir disposé le cœur de notre pasteur. Et merci, Seigneur, pour l'aisance, la facilité que cette parole a été transmise. Père, nous sommes à ta disposition ce soir avec un cœur sincère. Reconnaissant, Seigneur, que nous n'avons pas toujours été à la hauteur de tes attentes. Nous n'avons pas toujours su faire ce que tu nous as toujours demandé. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons venir devant toi avec une résolution à prendre. Reconnaissant, Seigneur, que c'est toi qui nous as donné cette sainte convocation et nous ne voulons pas passer à côté. Nous voulons tout simplement, Seigneur, saisir l'opportunité pour nous mettre au pas avec ta parole. Être au diapason, Seigneur, avec ce que tu veux faire pour chacune de nos vies, mais en même temps pour l'ensemble de notre congrégation. Seigneur, nous savons que les jours passés n'ont pas toujours été faciles, mais nous voulons te rendre gloire, nous voulons te dire merci parce que tu nous as gardés. Et tu nous as gardés, Seigneur, pour un moment aussi précis que celui-ci, pour nous rappeler à manifester l'amour, Seigneur, qui va faire en sorte qu'on nous identifie à être tes petits-enfants, qu'on nous identifie à être tes disciples. Seigneur, les points sont vastes et nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, manquer aucune de ces opportunités pour manifester que ce soit la justice, l'honnêteté, l'altruisme, la bonté, Seigneur, et j'en passe. Mais Seigneur, fais en sorte que lorsqu'on nous regarde, on ne nous voit pas nous, mais on voit, Seigneur Dieu, les standards de ce que tu attends de nous. Nous n'avons pas la prétention, Seigneur Dieu, que le chemin va être facile, mais toi, à nos côtés, Seigneur, tout est possible. Seigneur, je remets la congrégation entre tes mains. Seigneur, titille-nous encore au moyen de ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour cette belle parole. Merci, Seigneur Dieu, pour la richesse de cet enseignement. Mais Seigneur, aide-nous à saisir, Seigneur Dieu, chaque aspect. Et fais en sorte, Seigneur Dieu, que nous prospérions à tous égards, Seigneur. Parce que là, nous avons vu, Seigneur Dieu, l'étendue, Seigneur Dieu, ne serait-ce que dans l'introduction, mais tout ce que tu veux faire, Seigneur, avec nous, pour le début de cette année. Alors, Seigneur, je me remets entre tes mains. Je remets ma sœur entre tes mains. Je remets mon frère entre tes mains. Et la congrégation tout entière, Seigneur, est entre tes mains pour répondre à ton appel et pour faire en sorte, Seigneur Dieu, que la vraie fraternité se voit dans chacune de nos vies et dans l'ensemble de notre congrégation. Bénis-nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Je remets encore entre tes mains ton messager, ton enfant. Merci encore pour ce que tu accomplis dans sa vie. Je remets le reste de la semaine entre tes mains. Tu connais, Seigneur Dieu, les autres enseignements qui vont suivre. Seigneur, que sa bouche soit ta bouche. Et enlève, Seigneur Dieu, tout obstacle. Enlève, Seigneur Dieu, tout ce qui risque d'empêcher à ce que ta parole porte fruit dans nos vies, Seigneur. Nous voulons nous mettre à ta disposition et nous te disons tout simplement, Père, parle, ton peuple écoute et agis, Seigneur, au sein de notre congrégation. Pour ta gloire, Seigneur Dieu, nous te prions. Père, je veux remettre ton peuple entre tes mains. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir bénis. Merci d'avoir fait en sorte, Seigneur Dieu, que le chemin pour arriver ici soit exempt de danger et de difficultés. Nous comptons, Seigneur, encore sur ta protection, sur ta puissance pour nous garder sur le chemin du retour. Et nous voulons encore, Seigneur Dieu, remettre toute la semaine entre tes mains, faire en sorte qu'elle soit bénie, qu'elle soit protégée et faire en sorte que la victoire soit à nos côtés. Pour ta gloire, Seigneur Dieu, nous te prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Merci, soyez bénis. Amen.